Moi, je vais faire quelque chose qui s'apparente, et c'est un peu difficile, à la fois à une conclusion de différentes heures de séminaire que j'ai déjà données et à une introduction à cette journée de conférence. Sachant que ceux pour qui je fais une conclusion et ceux pour qui j'introduis ne sont pas nécessairement les mêmes, donc ça va être difficile de ne pas être répétitif pour les uns et de ne pas être mystérieux pour les autres. Enfin, je vais quand même essayer de m'en sortir. Alors, habituellement, on peut reconnaître, et ce sont des choses qui ont été dites précédemment, on peut reconnaître aux politiques de lutte contre les discriminations une double composante originaire. D'une part, un carcan subjectiviste, celui du sujet de droit, et d'autre part, un idéal défini par le modèle d'une concurrence non faussée. Et je crois qu'il est important de maintenir l'hétérogénéité de ce double modèle, qui s'inscrit dans des traditions différentes, hein, d'une part la tradition juridique moderne, et d'autre part un certain modèle économiciste par lequel les comportements sont réfléchis, et c'est le mot réfléchi qui est important, sur le modèle du marché. Alors, ces deux traditions, ces deux modèles peuvent bien sûr se rencontrer, et je crois que les politiques de lutte contre les discriminations et les discours sur les discriminations sont un des champs dans lesquels ces deux modèles se croisent, un des champs parmi d'autres, hein. Dire que la rationalité actuarielle est un autre champ dans lequel ces deux discours se croisent, que la tradition des law and economics est un autre modèle dans lequel ces traditions se croisent, etc. Mais en tout cas, si ces deux modèles sont pris pour base de l'analyse des politiques antidiscriminatoires, ils ont pour conséquence, c'est quelque chose sur lequel on s'est déjà un peu arrêté, tant Florence Kemax que moi-même, ils ont pour conséquence de ne pas accorder d'autonomie conceptuelle au discours sur les discriminations, qui apparaît ainsi, ce discours et les politiques antidiscriminatoires, qui apparaissent comme une série d'outils en quelque sorte disponibles, axiologiquement neutres, qui se contenteraient de dédoubler des logiques de fond, hein, l'égalité de droit, le modèle du marché, et qui recevraient leur sens, ces outils simplement disponibles, qui recevraient leur sens des situations sur lesquelles ils s'appliquent. Au point de pouvoir, hein, ce serait ça, cette espèce d'outil neutre, au point de pouvoir même parfois servir à empêcher des actions politiques de boycott de certains produits pour marquer un désaveu d'une politique nationale, comme ça a été récemment le cas, quand les outils de lutte contre les discriminations ont servi à, justement, à condamner des politiques de boycott. Alors, comment, sur la base de ce double composante originaire, et si on suppose donc que les politiques antidiscriminatoires ne sont pas porteurs d'une autonomie conceptuelle, qui ne sont que des outils neutres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas la perspective évidemment que je retiendrai dans un deuxième temps, mais comment dans ce cadre-là, penser l'évolution des outils antidiscriminatoires et l'évolution lors des 20 dernières années, du discours contre les discriminations et l'évolution qu'il amène, donc au-delà des seules réponses de type juridique qui réagiraient à des actes ou qui répondraient, qui s'opposeraient à des actes qui seraient eux-mêmes explicitement discriminatoires et qu'il s'agirait de condamner. Donc on aurait évolué de cette réponse typiquement juridique vers le développement, d'une part, de politiques dites de discrimination positive, qui permettent de faire face à la persistance des situations d'inégalité malgré l'égalité de droit. Évolution aussi vers des tentatives de répondre, de prévenir des formes de discrimination indirecte et non plus directe, chose qui a été analysée lors de plusieurs séminaires. Alors, comment penser donc cette évolution de la discrimination stricto sensu et des outils de lutte contre ces discriminations stricto sensu vers des formes élargies et plus indirectes, disons, de discrimination. on peut penser cette évolution comme une tentative de passer d'une situation d'égalité formelle, d'égalité de droit, qui propose des références abstraites, vers des formes d'égalité qu'on considérait comme plus réelles. De même que la discrimination s'éloigne de l'action hostile, de l'action intentionnellement hostile, bref, de la relation individuelle au profit de prise en considération des équilibres collectifs. De même, les sujets, dans leur relation d'égalité et d'inégalité, dans leur relation de discrimination, de non-discrimination, etc., s'objectivisent, se contextualisent. Donc, ce serait tout simplement un mouvement qui nous éloigne de l'abstraction. Propre aux relations d'égalité formelles. Et, simplement pour faire le lien avec quelque chose que j'ai analysé lors des séminaires, j'avais montré que cette évolution-là pouvait être comparée à d'autres évolutions précédentes, comme celle qui nous a amené, tout au long du XIXe siècle, d'une forme de responsabilité purement subjective, reposant sur la faute, vers des conceptions plus objectifs, plus sociales, plus collectives, de la responsabilité. Donc, premier moyen de comprendre, première possibilité de comprendre l'évolution même du discours sur les statistiques, c'est de le comprendre globalement comme ce qu'on pourrait appeler une critique de l'abstraction. Une tentative de contextualiser, d'objectiver les rapports d'égalité ou d'inégalité. Parallèlement à ça, je ne fais que constater ce qu'on dit, ce stade-ci, cette évolution peut être pensée et est toujours aussi pensée comme un danger, à savoir le danger qui nous mettrait face à des références collectives qui étaient d'abord justifiées par des obligations de rattrapage spécifiques, mais momentanées, rattrapage qui permettait d'atteindre véritablement l'égalité de droit, laquelle resterait le but ultime de toutes ces politiques de rattrapage. Eh bien, le danger serait que donc de ces politiques de rattrapage qui donnent lieu à des références collectives, nous passerions, Florence Kemax le signalait encore la semaine passée, à des politiques de représentation proportionnelle du social, une sorte de réification, de substantialisation plutôt, des catégories collectives qui n'ont été pensées dans un premier temps que pour permettre une véritable égalité de droit et qui deviendraient elles-mêmes l'objet de la politique. Voilà les deux manières classiques qu'on aurait donc de lire l'évolution même du discours sur les discriminations. Et il me semble qu'en mettant en avant ces deux manières classiques de penser l'évolution du discours sur les discriminations, on se trouve tout simplement face, pris dans un débat lui-même extrêmement classique, très fantasmé, comparable à celui qui a agité à la même époque les partisans des droits individuels face à des partisans des droits collectifs, etc., et qui serait entièrement organisé sur la base d'une relation dichotomique entre l'individuel et le collectif, qui resterait donc prisonnier, un débat qui resterait prisonnier de cette distinction entre individuel et collectif, même quand on tente de composer l'individuel et le collectif. Je dirais même qu'au plus on tente de raffiner la relation de l'individuel et du collectif, au plus on reste prisonnier de leur dichotomie, avec des scénarios que j'ai évoqués précédemment, que je me contente de citer maintenant, qui sont un peu... qui, en tentant de contextualiser les choses, deviennent paradoxalement d'autant plus abstraits. L'idée que les références collectives discriminantes, discriminantes de manière positive ou de manière négative, peu importe, doivent être pensées comme disponibles pour l'individu, que ce qu'il s'agit, c'est de maintenir son choix, son consentement à son appartenance, etc., comme si on pouvait trier les contextes. Bref, comme si des vrais sujets préexistaient toujours de manière autonome à leur propre, hétéronomie. Et qu'il s'agissait donc de saisir et de protéger cette autonomie qui se trouve derrière les hétéronomies. Comme si on choisissait en quelque sorte nos appartenances. Donc bien sûr, c'est ça que j'essaie de montrer, bien sûr, on accepte que l'individu est pris dans des contextes, mais il doit développer par rapport à ces contextes des relations d'autonomie. Donc on prend en considération les contextes dans la mesure où on peut les traiter comme un habit qu'on choisit dans sa garde-robe le matin. Alors pour éviter les pièges que je viens de décrire, il me semble qu'on peut, qu'on doit chercher à conférer au discours sur les discriminations et aux politiques antidiscriminatoires une rationalité spécifique et que cette rationalité propre, spécifique au discours sur les discriminations, qui permettrait de comprendre son évolution sans être tiraillé entre ces deux pentes que j'ai décrites tout à l'heure, c'est son appartenance, sa dépendance par rapport à une rationalité que j'appelle statistique. Alors pourquoi le discours sur les discriminations et les politiques antidiscriminatoires sont-ils dans un rapport de dépendance par rapport à cette rationalité statistique? Je ne peux plus rentrer trop dans le détail de ces matières-là que j'ai déjà abordées avec une grande partie des personnes présentes. Mais bien entendu, d'abord, et très concrètement, dans la mesure où cette rationalité statistique est la condition pour rendre visible des phénomènes de discrimination, dès lors qu'on considère que ceux-ci ne se réduisent pas à des actes intentionnellement hostiles, et dès lors qu'ils peuvent même être détachés de tout acte, au sens fort du mot « acte », selon lequel un acte renverrait toujours à un auteur. Il s'agit de percevoir des formes de discrimination qui s'inscrivent dans des contextes plus généraux que le simple idée d'une action discriminante. Premier point qui témoigne de cette dépendance du discours sur les discriminations par rapport à une rationalité statistique, le fait que cette dernière est la condition pour rendre visibles les phénomènes de discrimination tels qu'ils ont évolué, dans l'évolution que j'ai décrite tout à l'heure. Au point que à l'aide de la statistique, à l'aide de cette rationalité statistique, la discrimination peut qualifier non pas seulement donc des actes pourvus d'un auteur, des actes intentionnellement hostiles, mais peut qualifier plus généralement tout dispositif. Si on entend, je me réfère ici à Agamben, ce n'est pas un détour nécessaire, enfin, si on entend par un dispositif ce qui saisit tout simplement les vivants en considérant qu'il y a en quelque sorte deux classes d'êtres, les vivants et les dispositifs, c'est juste assez utile comme répartition, c'est pour ça que je m'y réfère, et que dans l'interaction entre ces deux classes d'êtres, les vivants et les dispositifs, sont produits des sujets. Donc la statistique, la rationalité statistique est essentielle aux politiques antidiscriminatoires et aux discours sur les discriminations dans la mesure où elles sont le révélateur de du caractère plus ou moins discriminant de ces dispositifs dans lesquels les vivants sont pris. Or, s'il y a bien une multiplicité exponentielle de dispositifs à l'œuvre de nos jours, des dispositifs qui entretiennent d'ailleurs entre eux des relations de concurrence. On va parler d'une guerre des normes, d'une guerre des dispositifs. Et donc, une pluralité de sujets qui découlent de ces relations entre les dispositifs et les vivants. On doit noter, ça va m'amener au deuxième point qui me permet de nouer statistiques et discrimination, on doit noter qu'une part toujours plus importante des dispositifs en général sont eux-mêmes, ou est elle-même, une part toujours plus importante des dispositifs, est elle-même, agit elle-même, pardon, sur un mode statistique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un dispositif, quelle est la spécificité des dispositifs contemporains, sinon que d'agir de manière statistique. Donc voilà la situation. La statistique permet de déceler la teneur discriminatoire à l'œuvre dans les dispositifs qui orientent nos comportements et qui produisent les sujets contemporains. Elle permet en quelque sorte de montrer les blocages qui sont produits dans l'interaction entre le vivant et les dispositifs. Les blocages qui sont produits dans la production des sujets, en quelque sorte. Mais ces dispositifs sont eux-mêmes agissant sur une base essentiellement statistique. Or, l'organisation statistique d'un dispositif, ou l'organisation statistique de la plupart des dispositifs que nous subissons, hein, Agamben, quand il parle de dispositif, il prend le cellulaire, par exemple, comme exemple. Hein, le système de caméra dans une université, peu importe. Mais donc, l'organisation statistique des dispositifs est elle-même, et je le dis de la manière la plus neutre, la plus froide, est elle-même productrice de discrimination, à savoir des discriminations que j'ai traitées aussi lors des séminaires précédents, hein, des discriminations, et que Rüger a traitées, des discriminations qu'on peut qualifier de statistiques. C'est-à-dire des discriminations qu'il ne s'agit pas de considérer comme telles, comme illégitimes, puisqu'il s'agit, c'est ça qui pour moi définit la pratique statistique, il s'agit tout simplement de faire usage de certaines catégories collectives, pour anticiper des comportements qu'on considère comme dommageables dans des situations d'incertitude. Rien d'illégitime à cela. Mais c'est une pratique de discrimination, cela. Donc si l'inscription de la question des discriminations dans une rationalité statistique m'apparaît comme essentielle, c'est dans la mesure où elle nous met face à une double relation qui lie statistique et discrimination. La statistique est ce qui rend visible les discriminations, c'est le révélateur des discriminations, et la statistique est ce qui produit les discriminations, c'est l'opérateur des discriminations. Double relation donc des statistiques et de la discrimination, qui sont une double relation certes contraire, mais qui sont en quelque sorte les deux faces d'une seule et même pièce. C'est une même rationalité et une même série de composantes qui assurent le rapport entre statistique et discrimination. C'est une même rationalité et des mêmes composantes qui montrent des discriminations là où on ne les voit pas et qui produit des discriminations sans qu'on le veuille, voire même qui cache des discriminations là où il y en a en fait. Alors je vais répéter cette double composante et même montrer qu'elle est amenée à évoluer dans le sens d'une imbrication. Alors, la stat montre les discriminations là où on ne les voit pas, c'est-à-dire qu'elle montre qu'un dispositif X, disons, pas nécessairement hostile, peut-être même pourvu d'un but légitime, ou en tout cas pourvu d'un but neutre, sélectionner des employés en fonction de la maîtrise d'au moins deux langues des communautés françaises, payer plus les temps pleins que les temps partiels, pour citer un exemple classique, est en fait discriminatoire parce qu'une série de catégories les subit de façon plus importante que d'autres. Il faudrait complexifier, mais enfin j'ai donné la teneur du raisonnement. Un dispositif non hostile, neutre, etc., est en fait discriminatoire parce que statistiquement, on peut montrer qu'une certaine catégorie le subit de façon plus importante que d'autres. je ne dis pas que seule la statistique est à même de montrer ceci, hein, mais la statistique est utilisée pour cela, comme révélateur des discriminations indirectes, disons, pour aller vite. L'autre versant, hein, ça c'est la statistique comme révélateur, statistique comme producteur maintenant, elles permettent, enfin cela consiste à développer un dispositif X à nouveau, non hostile, avec un but légitime ou au moins avec un but neutre, mais grâce à des critères de groupe, à des catégories collectives, qui nous permettent d'appréhender qui doit être, de nouveau, je rebondis sur des exemples classiques et peu intéressants en tant que tels, hein, qu'il s'agit de fouiller dans un poste frontière, disons. Alors non seulement, et c'est ici que ça devient, me semble-t-il, un peu moins cousu de fil blanc, non seulement ce sont les mêmes composantes qui sont à l'œuvre dans ces deux possibilité, non seulement c'est une même rationalité globale qui est à l'œuvre, mais on peut même dire que l'évolution technologique et statistique fait que ces deux types de pratiques, en apparence contraires dans les directions qu'elles prennent, vont devenir de plus en plus imbriquées. Et pourquoi cela ? Parce que dans le deuxième cas, producteur de discrimination, donc, l'usage des critères de groupe pourra toujours plus être évité par le croisement des données. C'est-à-dire l'usage de critères de groupe potentiellement illégitimes pourra toujours plus être caché, pourra toujours plus être euphémisé, pour prendre un mot qui sera certainement encore employé la journée. Ce qui apparaîtrait donc, et qui fait la synthèse entre mes statistiques comme ce qui rend visible et mes statistiques comme ce qui produit de la discrimination, c'est la possibilité de développer de manière statistique des dispositifs non hostiles avec des buts légitimes ou neutres, mais sans plus faire usage de critères discriminants, et en même temps la possibilité de montrer qu'ils sont quand même effectivement discriminants. Ce qui est en jeu ici, de la manière la plus globale, me semble-t-il, et ce que je tente de travailler quand j'analyse le gouvernement, ce que j'appelle la gouvernementalité statistique, c'est globalement une politique de l'objectivité, une politique qui fait usage de l'argument d'objectivité, qui gouverne à partir de l'argument d'objectivité, ou encore qui gouverne à partir du réel, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et qui cherche autant que possible à anticiper les comportements en rendant impossibles certains d'entre eux. Ce que j'appelle donc une politique de l'objectivité ne vise pas à interdire certains comportements, c'est le règne de la loi, qui interdit mais n'empêche pas, c'est-à-dire qui permet la désobéissance, en d'autres mots. Ce que j'appelle une politique de l'objectivité, c'est au contraire ce qui permet de parfaitement anticiper les comportements au point de rendre impossible ce qu'auparavant on aurait interdit. Donc ce à quoi on assiste ici, c'est véritablement au cadenassage de l'interaction entre vivant et dispositif, au point que certains sujets sont produits nécessairement et d'autres sujets sont fondamentalement empêchés d'être produits. Ça, c'était le diagnostic, j'ai envie de dire. Hein. En gros, pour répéter le raisonnement, je me demande comment réfléchir globalement la question des discriminations. J'ai montré les deux possibilités qu'on avait de les analyser, les deux possibilités traditionnelle et tout à fait solide, hein, elle aussi, de façon spontanée qu'on aurait d'analyser le discours sur les discriminations, hein, critique de l'abstraction d'une part, danger d'une réification ou d'une substantialisation des catégories collectives d'autre part. Je me suis demandé comment dépasser un tel diagnostic. Pour le dépasser, je crois qu'il faut prendre en considération la question des discriminations dans son lien général avec la rationalité statistique, ce que je viens de montrer, avec le double mouvement que cela comporte. Et maintenant, je voudrais faire, pour conclure, une série, disons, de propositions théoriques, mais qui ne sont vraiment que des esquisses, hein, ou une série de propositions philosophico-politiques, disons, qui mettent en avant des concepts à partir desquels penser cette coprésence de la statistique et de la discrimination, cette imbrication du rapport, du discours sur les discriminations dans une rationalité statistique. Alors, très globalement, je pense que ce qui doit être soigné, ce qu'on doit veiller à maintenir, plutôt que l'idée du respect, l'idée de devoir respecter l'autonomie des individus, qui serait mise en danger par les discriminations contre lesquelles on lutte, ou qui serait mise en danger par les discriminations positives que l'on déploierait positivement, donc pour répondre à ces premières discriminations. Donc plutôt donc qu'avoir comme socle à partir duquel penser la rationalité statistique, l'idéal d'une autonomie individuelle, je crois, c'est vraiment une proposition, que ce qui doit être soigné, ce qui doit être maintenu et qui pourrait donc être mis en danger, c'est la contingence elle-même, ou la possibilité de l'événement, et le fait de mettre en avant ces catégories de manière très hasardeuse, cette catégorie de l'événement, de la possibilité de la contingence. Face à la rationalité statistique, a de surcroît l'intérêt de nous tourner vers quelque chose d'aussi impersonnel que ce que vise la statistique. L'événement tel que décrit dans la logique du sens chez Deleuze, c'est justement cette catégorie de l'impersonnel. Mais là où l'impersonnel de la statistique, c'est la surface indifférenciée, collective, pré-individuelle, il s'agirait, avec cette idée de soigner, de maintenir la possibilité de l'événement, de maintenir de la contingence, de vouloir maintenir quelque chose qui ne se pense ni comme la surface indifférenciée, collective, pré-individuelle, ni comme une réalité individuelle. C'est quoi l'événement ? C'est ce qui produit l'individu, c'est ce qui produit les personnes à partir d'un potentiel qui ne ressemble pas à ce qui est produit. Donc voilà la proposition générale qui est, plutôt que de penser cette rationalité statistique à partir de l'idéal d'une autonomie individuelle, pensons-la, mais c'est une proposition très générale, pensons-la à partir de l'idée de maintenir de la contingence et de maintenir la possibilité d'une événementialité pure, en quelque sorte. Alors, à quoi, j'entre un tout petit peu plus dans le concret, à quoi ceci doit-il nous amener à faire attention ? Et je me retourne vers ma question de rationalité statistique. Il me semble que cela doit nous amener à faire particulièrement attention à la manière toujours plus complexe dans laquelle se nouent les registres collectifs et les registres individuels. En évitant l'approche, en évitant toute approche dichotomique, même dans la composition de ces deux registres. Je vais donner des informations concrètes sur ceci, des exemples concrets sur ceci. Le propre de la rationalité statistique, c'est d'en appeler toujours plus, c'est ça l'imbrication de l'individuel et du collectif dont je parle, qui rompt la dichotomie, c'est d'en appeler toujours plus à des catégories collectives afin d'individualiser nos relations. Quelque sorte, la situation contemporaine, le propre des dispositifs contemporains, c'est qu'au plus j'emploie des catégories collectives, au plus j'individualise. Ou encore, au moins j'apparais comme discriminatoire. Ou en tout cas, au moins j'apparais comme arbitraire. Donc on a une démultiplication des catégories collectives qui nous permet en quelque sorte d'éviter... Il me semble que ça fait partie des phénomènes d'euphémisation qu'il faut mesurer, hein, qui nous permet d'éviter l'usage des catégories collectives choquantes, disons. Donc on peut discriminer de manière soft, si vous voulez, pour le dire platement. La statistique, globalement, permet toujours d'échanger une catégorie collective hostile par une catégorie collective non hostile, ou au moins par plusieurs catégories collectives non hostiles. C'est ça, tout simplement, la statistique. Ne parlons plus de race, ne parlons plus de classe sociale, etc. Parlons de... avez-vous mangé des Kellogg's ou des tartines le matin? Avez-vous été chez le coiffeur hier? Etc, etc. Et croisons. C'est tout simplement ça qui décrit la statistique pour moi. C'est ça la rationalité statistique. Au point qu'on pourra arriver à des traitements parfaitement individualisés, parfaitement indolores, via des suites de corrélations entre des variables aléatoires, ponctionnées à même une réalité indifférente, ponctionnées de manière tout à fait anodine, hein, mangez-vous des Kellogg's ou autre chose, sans en passer par des catégories considérées comme vexatoires. Donc ça, c'est, je crois, une chose à laquelle on doit faire extrêmement attention, je ne suis pas du tout dans la dénonciation, hein, c'est vraiment encore dans le diagnostic, c'est cette manière qu'on a, manière peut-être nouvelle qu'on a de plier l'individuel et le collectif l'un sur l'autre. De telle sorte que la démultiplication des catégories collectives permet d'arriver à un type d'individualisation toujours plus fine, mais dans l'évitement des catégories collectives vexatoire, mais aussi discriminatoire, mais aussi peut-être politiquement forte, etc. Ça, c'est une première proposition concrète. La seconde, j'en ai parlé lors du séminaire. Et c'est une proposition qui se base un peu sur des suggestions faites par Desrosières. C'est qu'il me semble important, au sein même de la rationalité statistique, c'est-à-dire au sein même des usages possibles des corrélations, c'est ça, au sein même de la science des corrélations, de définir, de revenir sur la nécessité de définir un éthos scientifique par opposition à quelque chose que je ne sais pas trop comment appeler, mais enfin disons par opposition à un éthos managérial. Et qu'est-ce qu'un éthos scientifique ? C'est un éthos attaché à la recherche du sens, à la tentative de définir des récits. Hein ? Un éthos attaché à la composante sémantique, en quelque sorte, des corrélations, ou à un arrière-fond sémantique qui doit pouvoir être donné au-delà des corrélations. Alors ça m'avait amené, lors du séminaire, à pointer, et là ça c'est vraiment quelque chose que Desrosières analyse bien, la nécessité, par exemple, distingue fondamentalement l'éthos scientifique du statisticien de l'éthos managérial du statisticien, hein, ces deux possibilités de faire des corrélations qu'on aurait. Ça doit nous amener, par exemple, à des formes d'attention, à pointer des manières différentes de considérer les phénomènes de rétroaction des catégories, et les phénomènes de rétroaction des catégories qui permettent de dresser des corrélations. Dans un cas, la rétroaction, c'est ce dont on doit se méfier, ce avec quoi on doit être extrêmement prudent, etc. Dans l'autre cas, les phénomènes de rétroaction, c'est au contraire ce dont on se fiche, ou éventuellement ce sur quoi on surfe. ce sur quoi on va rebondir, ce dont on va proposer. Il me semble là que Desrosières pointe quelque chose de fondamental qui nous permet, au sein même de la rationalité statistique, de faire des propositions qui nous amènent à développer des manières différentes d'user des corrélations. Mais surtout, il s'agit, et c'est ce qui doit nous amener à maintenir la valeur sémantique de la statistique, surtout, il faut se demander il faut s'inquiéter de l'usage qui est fait des corrélations en général et le statut des corrélations dans ces deux types d'éthos, enfin, ou dans cet éthos et cette absence d'éthos que j'essaye de pointer. Alors, bien entendu, la statistique s'intéresse seulement aux corrélations et pas aux causes. Et c'est même là sa force. Comme je l'ai dit lors des séminaires, non seulement la statistique et la science des corrélations n'est pas des causes, mais elle est même maintenant capable de produire des corrélations considérées comme intéressantes sans passer par l'épreuve de l'hypothèse. On est capable, en quelque sorte, de faire émerger des corrélations agissantes sans avoir dû poser au préalable de celle-ci une hypothèse scientifique. Alors, c'est, je crois, cette sorte d'émancipation totale des corrélations qui est dangereuse, excusez-moi. Ce qu'il faut maintenir, on ne peut pas refuser l'usage des corrélations. Bien entendu, c'est le propre de notre rationalité, j'ai envie de dire, que d'user des corrélations. Mais il faut veiller à ce que celles-ci ne s'émancipent pas totalement, ne représentent pas totalement un abandon de la catégorie des causes, un abandon de la recherche et de l'explication des corrélations. Bref, un abandon de ce que j'appellerais la possibilité de faire un récit hein, qui fait sens par opposition à la simple accumulation d'une suite de corrélations. C'est parce que nous sommes capables de produire un récit par-delà la suite des corrélations que nous pourrons montrer qu'il y a des additions d'inégalités qui font qu'il y a véritablement discrimination. Une simple corrélation ne permet pas de montrer, d'en arriver au niveau d'un questionnement des discriminations et des inégalités. C'est parce qu'on est capable de resituer ces corrélations dans un récit qu'on peut percevoir l'existence d'une addition d'inégalités, d'une inégalité récurrente, etc., qui fait qu'il y a véritablement discrimination. Bref, je crois, et j'en terminerai par là, je crois que ce qu'il s'agit de restaurer, en quelque sorte, c'est la possibilité d'établir des différences entre la statistique qui peut produire des discriminations et la statistique qui montre les discriminations, dans la mesure où l'une veut seulement anticiper, veut seulement anticiper les comportements par des suites de corrélations, là où l'autre, au contraire, va inscrire ces corrélations dans un récit plus général. Et je crois que je vais en rester là. Alors, deux mots sur ce que j'aurais voulu dire, mais je ne vois plus assez le fil pour y parvenir. Il s'agit non seulement de maintenir la possibilité d'un récit derrière ou au-delà des corrélations, hein, et ce serait ça l'éthos scientifique, mais il s'agit aussi, me semble-t-il, et ça permet de distinguer l'éthos scientifique qui révèle les discriminations de l'éthos managérial qui produit des discriminations, il s'agit sans doute aussi, me semble-t-il, de restaurer l'idée du projet, l'idée de l'hypothèse qui est mise sur la table et qui sera vérifiée par des statistiques, là où au contraire le propre de la rationalité statistique, comme je l'ai expliqué lors des séminaires, est de parvenir à s'émanciper de cette catégorie de l'hypothèse et du projet. Parce que justement on parvient à faire émerger des corrélations de manière quasi automatique. Alors, je voulais sur cette base-là, hein, avec ce propos un peu moderne, un peu réactionnaire peut-être pour certains, de restaurer les projets et de restaurer les grands récits. Je voulais dire justement que ce n'était évidemment pas le projet dans son sens totalisant, le projet dans le sens du projet qui doit s'appliquer, de l'hypothèse qui pourrait s'appliquer directement sur le réel ou qui devrait simplement être vérifié dans le réel, ni le grand récit en ce que celui-ci permettrait de donner un sens complet et total à la réalité ou à une histoire qu'il s'agit de restaurer, mais c'est au contraire le projet et le récit comme ce qui rate, comme ce qui se déplace, comme ce qui se transmet, comme ce qui devient lui-même la condition d'un devenir autre. Et donc dans ce sens-là, ça me permettait de rétablir, de récupérer cette catégorie de la contingence que j'avais annoncée dans un premier temps. Donc voilà, une vision en quelque sorte un peu postmoderne du projet et du récit. Sur lequel j'aurais voulu terminer, mais qui me semble un peu trop lourd pour ce matin. Merci.